Chapitre 10. La parole est à la défense. Nicole se leva et contourna la table, étonnée par sa lassitude. Les deux années passées en prison avaient sapé sa vigueur légendaire. Elle approcha lentement des jurés. Il y avait au premier rang Karen Stolz, une Suissesse que Nicole avait bien connue à l'époque où cette femme et son mari tenaient une boulangerie à Beauvois, non loin de chez eux. « Bonjour, Karen, » lui dit-elle. « Comment se portent John et Marie? Ils doivent être devenus de beaux adolescents à présent. » Madame Stolz s'agita avec nervosité sur son siège.
« Ils vont bien, merci, »
répondit-elle d'une petite voix. « Faites-vous toujours des petits pains à la cannelle le dimanche matin ?» Le claquement du maillet résonna dans la salle.
« Madame Wakefield, » gronda le juge Nakamura, « le moment est mal choisi pour papoter. Je vous rappelle que votre temps de parole est limité à 5 minutes. »
Sans en faire cas, Nicole se pencha vers les 4 hommes et les 2 femmes composant le jury, le regard rivé sur le collier qui parait le cou de Karen Stolz.
« Ce colifichet est magnifique, mais je suis certaine que vous auriez pu obtenir bien plus. »
Le maillet claqua à nouveau. 2 gardes approchèrent, mais elle reculait déjà.
« Mesdames et messieurs les jurés, vous entendez depuis 1 semaine l'accusation répétée que j'ai incité la population à se soulever contre le gouvernement légitime du Nouvel Éden. En raison des actes que l'on m'impute, j'ai été accusé de haute trahison. Votre rôle est de décider si, sur la base des preuves présentées dans le cadre de ce procès, je me suis effectivement rendu coupable de ce qu'on me reproche. Je vous demande simplement de garder à l'esprit pendant vos délibérations que le crime qu'on m'impute est puni de la peine capitale. Je souhaiterais analyser avec soin les arguments présentés par l'accusation. Les dépositions du premier jour d'audience, sans aucun rapport avec cette affaire et autorisées par monsieur le juge en violation des dispositions concernant les témoignages dans le cadre de tel procès.
Madame Wakefield,
l'interrompit Nakamura avec colère.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, je ne tolérerai pas de commentaires aussi irrespectueux dans mon tribunal. Une autre remarque de ce genre, et non seulement je vous inculpe d'insulte à magistrat, mais j'interromps votre plaidoyer.
L'accusation a consacré la première journée de ce procès à tenter de démontrer que ma vie privée avait laissé à désirer, ce qui faisait de moi quelqu'un d'assez immoral pour conspirer contre nos dirigeants. Mesdames et messieurs les jurés, je serais ravi de vous préciser dans quelles circonstances mes 6 enfants ont été conçus, mais je tiens à faire remarquer que mes activités sexuelles, tant passées que présentes et peut-être futures, sont sans aucun rapport avec les actes dont on m'accuse. Si ce n'est sur un plan purement anecdotique, les témoignages du premier jour ne nous ont rien apporté de concret.
Quelques rires se firent entendre dans la salle et les gardes eurent au fait de rétablir le silence.
Les témoins suivants ont consacré de nombreuses heures à tenter d'impliquer mon mari dans je ne sais quelle conspiration. Il est exact que je suis l'épouse de Richard Wakefield, mais ce n'est pas en fonction des soi-disant activités de mon mari qu'on peut déterminer si je suis ou non coupable des faits qu'on me reproche. Pour l'accusation, j'aurais commis mon premier acte de haute trahison en enregistrant la vidéo par laquelle les extraterrestres réclamaient la fondation de notre colonie. J'affirme que si je leur ai alors servi de porte-parole, je n'ai à aucun moment conspiré avec eux contre l'espèce humaine. Ainsi que je l'ai précisé hier lors de mon contre-interrogatoire, j'ai fait cela parce que je n'avais pas le choix. J'étais avec ma famille, à la merci d'une intelligence et d'une puissance dépassant tout ce qu'il serait possible d'imaginer. Je craignais qu'un refus n'entraîne des représailles.
Elle se tourna vers la table de la défense, but une gorgée d'eau, puis reporta son attention sur le jury.
Il ne reste que deux éléments de preuve pouvant être retenus contre moi. Le témoignage de ma fille Cathy et un enregistrement audio pour le moins sujet à caution. Une suite d'extraits de commentaires adressés à des membres de ma famille après mon emprisonnement que vous avez entendu hier matin. Est-il nécessaire de rappeler qu'il est très facile de déformer des propos en les présentant de cette manière? Les preneurs de son, appelés à la barre, ont reconnu qu'ils avaient écouté des centaines d'heures de conversation entre moi et mes enfants avant de disposer de ces 30 minutes de preuves accablantes, dont aucun passage ne dure plus de 18 secondes d'affilée. Dire que mes paroles ont été citées hors de leur contexte serait un euphémisme. Reste la déposition de ma fille, et je puis seulement dire avec chagrin qu'elle a menti. Je n'ai jamais eu connaissance des activités illégales auxquelles se serait livré mon mari, et il en découle que je n'ai pu l'encourager dans cette voie. Vous vous souvenez certainement que lors du contre-interrogatoire, Cathy s'est embrouillée dans ses explications et a fini par revenir sur sa précédente déposition avant de s'effondrer à la barre des témoins. Monsieur le juge Nakamura vous a déclaré qu'elle avait souffert sur le plan affectif et qu'il ne fallait pas tenir compte de ses rétractations. Je vous demande quant à moi de prendre en considération non seulement ce qu'elle a dit quand l'accusation lui posait des questions, mais également lorsque je l'ai mise en demeure de préciser où et quand j'avais commis les actes séditieux dont elle m'accusait. Elle approcha une dernière fois des jurés pour fixer chacun d'eux droit dans les yeux. C'est à vous et à vous seul qu'il revient de décider où est la vérité. C'est une femme accablée de chagrin qui s'en remet à vous. Car je ne puis croire qu'on ait osé porter à mon encontre de pareilles accusations. J'ai toujours défendu les intérêts de notre communauté et de l'espèce humaine dans son ensemble. Je ne suis pas coupable des charges retenues contre moi. Tout être suprême existant dans cet univers reconnaîtra ce fait, quelle que soit l'issue de ce procès. La clarté du jour décroissait rapidement. Nicole s'adossa au mur de sa cellule, pensive. Depuis que le verdict avait été prononcé, elle ne pouvait aller se coucher sans se demander si on ne l'exécuterait pas au lever de l'aube suivante. La Garcia lui apporta son dîner. La nourriture était meilleure ces derniers temps. Elle mangeait lentement le poisson grillé et se rappelait les 5 années écoulées depuis qu'elle et les siens avaient été rejoints dans Rama par les éclaireurs venus de la Pinta. Qu'est-ce qui est allé de travers? Quelle erreur fondamentale avons-nous commise? Elle pouvait entendre dans son esprit la voix de Richard, cynique et désabusé. N'avait-il pas dit au bout d'un an seulement que le nouvel Éden était bien trop beau pour les hommes? Nous finirons par dégrader ce lieu comme nous avons dégradé notre planète, avait-il déclaré. Notre bagage génétique, le territorialisme, l'agressivité et la conduite reptilienne est trop puissant pour que l'éducation et l'illumination puissent en venir à bout. Prends les héros de Michael, que ce soit Jésus ou ce jeune Italien, Saint Michel de Sienne. On les a tués parce qu'ils osaient exhorter les hommes à tenter de s'élever au-dessus des chimpanzés. Mais ici, dans le Nouvel Éden, nous avions tout pour créer un monde meilleur. On subvenait à nos besoins. Et nous avions la preuve indéniable qu'il existait dans l'univers une intelligence bien supérieure à la nôtre. Il aurait dû en résulter un environnement dans lequel...
Elle termina son poisson, mais pas sa pensée, et prit son dessert, un petit gâteau au chocolat. Elle sourit en songeant à l'amour immodéré que Richard avait porté à cette gourmandise.
« Il me manque tant. »
Elle fut surprise d'entendre des pas dans le couloir et elle frissonna. Ses visiteurs étaient 2 membres de la police spéciale de Nakamura. Ils entrèrent dans la cellule,
sans se présenter. Le plus âgé, en milieu de trentaine, sortit de sa poche un document et lut.
« Nicole Desjardins, dit-il, vous avez été reconnu coupable du crime de sédition et serez exécuté par électrocution à 8 heures demain matin. Votre petit déjeuner vous sera servi à 6h30, 10 minutes après le lever de l'aube. On vous conduira dans la chambre d'exécution à 7h30. Vous serez sanglé sur la chaise électrique à 7h58 et le contact sera établi 2 minutes plus tard. Des questions ?
Son cœur battait si vite qu'elle avait des difficultés à respirer. Elle inspira pour se détendre.
« Avez-vous des questions à nous poser ?»
répéta le policier.
« Comment vous appelez-vous »
fit Nicole d'une voix qui se brisait.
« Franz !»
répondit l'homme déconcerté.
« Franz comment ?»«
Bauer. Franz Bauer. »«
Eh bien, Franz Bauer, pourriez-vous m'apprendre combien de temps durera mon agonie ?» Après que vous aurez établi le contact, naturellement.
Je l'ignore, madame. Vous perdrez connaissance en seulement 2 secondes, mais je ne sais pas...
Merci,
dit-elle en se sentant défaillir.
Pourriez-vous me laisser à présent? Je voudrais rester seule.
Ils rouvrirent la porte de la cellule.
Oh !
Ajouta-t-elle.
Vous serait-il possible de me donner une de vos lanternes? Ainsi qu'une feuille et un stylo, ou un bloc-notes électronique ?
Bauer secoua la tête.
Désolé, mais nous ne pouvons...
Elle le renvoya d'un geste.
2 lettres,
se dit-elle, en ralentissant sa respiration pour reprendre des forces.
J'aurais tant voulu écrire à Cathy et à Richard. Mon âme est en paix avec tous les autres.
Après le départ des 2 policiers, Nicole se rappela les longues heures qu'elle avait passées au fond d'un puits dans Rama 2, bien des années plus tôt. Elle s'attendait à mourir d'inanition et avait consacré ce qu'elle croyait être ses derniers jours d'existence à revivre ses moments de bonheur.
Ce n'est plus nécessaire à présent. Il ne reste aucun événement que je n'ai pas déjà soigneusement analysé. C'est le seul avantage d'une si longue réclusion.
Elle fut surprise lorsqu'elle prit conscience que sa colère était uniquement provoquée par l'interdiction d'écrire à ses proches.
J'en reparlerai à mon réveil. Ils finiront par céder si je fais un esclandre.
Elle sourit malgré elle.
Ne pas partir sans faire de vagues !
Cria-t-elle. Son pouls s'était brusquement emballé. Elle se voyait assise sur une chaise électrique avec un étrange casque sanglé sur son crâne. La coiffe métallique fut parcourue d'étincelles et elle s'affaissa.
« Mon Dieu, insufflez-moi du courage. Je tremble de peur. »
Elle s'assit sur son lit, dans les ténèbres de sa geôle. Quelques minutes plus tard, elle se sentait plus calme, presque détendue. Elle se demanda ce qu'elle éprouverait en mourant.
Est-ce comme lorsqu'on s'endort, sauf qu'il n'y a ensuite plus rien ? Se produit-il quelque chose d'extraordinaire dont personne n'a pu naturellement parler ?
Une voix l'appelait, lointaine. Elle changea de position, sans s'éveiller.
Madame Wakefield !
Elle s'assit en sursaut dans son lit. L'aube devait se lever. La terreur l'envahit quand son esprit lui annonça qu'il ne lui restait que 2 heures à vivre.
« Madame Wakefield, par ici, à la porte de votre cellule. C'est moi, Amadou Diaba. »
Elle se frotta les yeux, puis tenta de reconnaître la silhouette visible derrière les barreaux.
« Qui ? »
fit-elle en traversant la pièce.
« Il y a 2 ans. » Vous avez aidé le docteur Turner à procéder à ma transplantation cardiaque.
Que faites-vous ici? Comment êtes-vous entré?
J'ai soudoyé des gardes. Je devais absolument vous apporter quelque chose.
Bien qu'il fût proche,
Elle ne discernait que ses contours dans la pénombre. Ses yeux lui jouaient des tours. Un court instant, elle crut que son visiteur était son arrière-grand-père Homais. Elle frissonna.
Entendu, Amadou. Que m'avez-vous apporté?
Je dois tout d'abord vous fournir des explications, bien qu'elles n'aient aucun sens. Je ne comprends pas moi-même. Je sais seulement que je devais vous remettre cela.
Nicole ne fit aucun commentaire et il lui raconta rapidement son histoire.
À Lagos, le lendemain du jour où j'ai été sélectionné pour partir sur Mars, j'ai reçu une étrange lettre de ma grand-mère Sénoufo. Elle me demandait d'aller la voir de toute urgence. Je l'ai fait à la première occasion, autrement dit 2 semaines plus tard, après avoir reçu un second message où elle affirmait que c'était une question de vie ou de mort. Je suis arrivé chez elle en Côte d'Ivoire au beau milieu de la nuit. Elle s'est éveillée et habillée aussitôt. Accompagnée par le sorcier du village, nous sommes immédiatement partis dans la savane. Nous avons marché très longtemps et j'étais rompu de fatigue quand nous avons atteint notre destination, un petit hameau appelé Nidougou.
Nidougou ?
Répéta Nicole.
C'est cela. Un vieillard tout ratatiné nous attendait. Ce devait être un chaman. Ma grand-mère est restée sur place avec le sorcier pendant que je suivais l'inconnu vers le sommet d'une montagne dénudée près d'un lac. Nous sommes arrivés à la cime juste à temps pour assister au lever du soleil.
Regarde, m'a dit le chaman quand les premiers rayons ont embrasé les flots. Plonge ton regard dans le lac de la sagesse. Qui vois-tu ?
Je lui ai déclaré que j'apercevais sur le fond 30 ou 40 melons.
« Parfait, » a-t-il dit en souriant, « tu es bien celui que je cherche. »«
Je suis quoi ?» lui ai-je demandé. Sans me répondre, il m'a précédé vers l'endroit où ces gros fruits étaient immergés. Nous ne pouvions plus les voir à cause des reflets du soleil qui étaient désormais haut dans le ciel. Le chaman a alors pris une fiole et l'a plongée dans l'eau avant de la boucher et de me la remettre. Il m'a ensuite donné une petite pierre qui avait la forme d'une pastèque.
« Ce sont les objets les plus précieux qui te seront jamais confiés, » m'a-t-il dit.
« Pourquoi ? » ai-je voulu savoir. Presque aussitôt, ses yeux se sont révulsés et il est tombé en transe. Il a psalmodié un chant Sénoufo et dansé pendant quelques minutes, puis il a plongé dans les flots.
« Attendez une minute !» lui ai-je crié. « Que dois-je faire de ces choses ? Emporte-les avec toi où que tu ailles. Tu sauras quand le moment sera venu de les remettre à la femme à qui ils sont destinés. »
Nicole pensait que les battements de son cœur étaient si sonores que même Amadou devait les entendre. Elle tendit le bras entre les barreaux de la porte afin de toucher son épaule.
« Et la nuit dernière ?» lui dit-elle. « Une voix s'est adressée à vous en rêve, s'il s'agissait d'un rêve, pour vous demander de m'apporter la fiole et la pierre. »«
C'est cela. Comment le savez-vous ?»
Nicole ne répondit pas. Elle ne pouvait parler. Tout son corps tremblait. Un instant plus tard, lorsqu'elle eut les 2 objets dans sa paume, ses genoux vacillaient tant qu'elle craignit de s'effondrer. Elle remercia Amadou et lui conseilla de repartir avant d'être surpris par des gardes. Elle regagna lentement son lit.
Est-ce possible? Tout cela aurait donc été écrit il y a longtemps. Des pastèques-manes sur la terre? J'ai perdu tout contrôle de mon être avant même d'avoir goûté au contenu de cette fiole.
Le simple fait de tenir ces objets lui rappelait l'incroyable vision qu'elle avait eue au fond du puits de Ramadeu. Elle déboucha le flacon, inspira à plein poumon et but d'un trait. Elle crut tout d'abord que rien ne se produirait. Autour d'elle, les ténèbres étaient toujours aussi profondes. Puis, une grosse boule orangée se matérialisa au centre de la cellule. Elle l'explosa et projeta ses couleurs de toutes parts. Elle fut suivie par une sphère rouge, puis une pourpre. Nicole reculait lorsqu'un rire s'éleva à l'extérieur, sous la fenêtre. Elle regarda dans cette direction et les murs de sa geôle furent dissous.
elle se retrouva au dehors, en plein champ. C'était toujours la nuit, mais elle discernait une vague silhouette dans le lointain. Elle entendit un autre rire.
« Amadou ? »
cria-t-elle. Elle courait à une vitesse prodigieuse. Elle rattrapait l'homme dont les traits se métamorphosaient. Ce n'était plus Amadou, mais Homais. Il rit encore, et elle s'arrêta.
« Ronata ! »
appela-t-il. Son visage entrait en expansion. Il devint aussi gros qu'une voiture, puis qu'une maison. Ses rires assourdissaient Nicole. La tête d'Homais devint un énorme ballon qui prenait de l'altitude dans le ciel nocturne. Il rit une dernière fois et sa tête aérostat explosa. Elle était pleine d'eau et Nicole fut trempée. Elle se retrouva sous les flots et se mit à nager. Quand elle refit surface, elle barbotait dans la mare de cette oasis de Côte d'Ivoire où, à l'âge de 7 ans, elle avait rencontré une lionne. Le fauve rôdait sur la berge. Redevenue une petite fille, Nicole était terrifiée.
« Je veux ma maman »,
pensa-t-elle. Elle se mit à chanter une berceuse de son enfance et sortit des flots. Le fauve ne bondit pas. Elle le regarda et il avait désormais le visage de sa mère. Elle courut l'étreindre et se fondit en lui. Elle était à présent ce félin. Et 6 enfants nageaient dans le point d'eau de cette oasis. Sous sa forme animale, Nicole chantait toujours la berceuse de Brahms et ils sortirent des flots. Geneviève fut suivie par Simone, Cathy, Benji, Patrick et Ali. Tous passèrent près d'elle pour s'éloigner dans la savane africaine. Elle bondit derrière eux. Elle courait dans un stade bondé de spectateurs. Elle avait retrouvé son corps et sa jeunesse. Son dernier essai fut annoncé. Alors qu'elle se dirigeait vers la piste du triple saut, un juge japonais approcha d'elle.
« Tu n'as aucune chance !»
lui dit Toshio Nakamura. Elle avait l'impression de voler. Elle toucha la planche d'appel, bondit une première fois, une deuxième, et prit son envolée vers la fosse de réception. Consciente d'avoir réalisé un saut valable, elle revint vers l'endroit où elle avait effectué ses exercices d'échauffement. Son père et Henri l'étreignirent.
« Bravo !» dirent-ils à l'unisson. « Tu as réussi !»
Ce fut Jeanne d'Arc qui lui apporta sa médaille d'or sur le podium olympique et passa le ruban autour de son cou. Aliénor d'Aquitaine lui remit une douzaine de roses. Kenji Watanabe et le juge Mishkin vinrent lui présenter leurs félicitations. Le présentateur annonça qu'elle avait établi un nouveau record du monde et la foule se leva pour l'acclamer. Nicole regarda la mère de visage et remarqua qu'il n'y avait pas que des êtres humains dans l'assistance. L'aigle était là, dans une loge spéciale, à côté de la tribune des octopodes. Tous l'ovationnaient, même les aviens, les créatures sphériques aux tentacules arachnéens et les anguilles à cap qui se collaient à la paroi transparente d'un gigantesque bocal. Nicole les salua de la main. Ses bras se changèrent en ailes, et elle prit son essor. Devenue un faucon, elle s'élevait au-dessus du secteur agricole du Nouvel Éden. Elle voyait les bâtiments où on l'avait emprisonnée. Elle vira vers l'ouest et trouva la ferme de Max Puckett. Bien que ce fût le milieu de la nuit, il était à l'extérieur et construisait une extension à une de ses granges. Nicole continua vers les lumières de Vegas, puis piqua et passa en vol plané derrière les nightclubs. Cathy était assise sur les marches d'une issue de secours, solitaire. Elle avait enfoui son visage entre ses paumes et sanglotait. Nicole voulut la réconforter, mais seul le cri d'un faucon brisa la nuit. Cathy leva les yeux vers le ciel, déconcertée. Elle vola jusqu'à Positano et la porte extérieure de l'enclave humaine. Elle attendit son ouverture. En surprenant le garde, elle sortit du Nouvel Éden. Elle atteignit Avalon en moins d'une minute. Robert, Ali, Nicole Junior et un infirmier étaient réunis dans une salle commune de l'institution avec Benji. Elle se demanda pourquoi ils étaient debout à une heure aussi tardive et les appela. Benji se précipita à la fenêtre et scruta les ténèbres. Nicole entendit une voix loin au sud, à peine audible. Elle vola rapidement vers le second habitat et y pénétra par le tunnel que les humains avaient foré dans sa paroi extérieure. Elle prit de la vitesse dans le couloir annulaire et s'engouffra à l'intérieur sitôt qu'elle en trouva l'entrée. Elle s'élevait au-dessus de la région verte. Elle n'entendait plus la voix, mais elle vit Patrick qui bivouaquait avec d'autres soldats au pied du gros cylindre brun. Un avien au cou orné d'un quadruple collier cobalt vint à sa rencontre.
« Il n'est plus parmi nous »
jacassa-t-il.
« Va à New York !»
Nicole quitta rapidement le monde clos et regagna la plaine centrale. Elle entendit à nouveau la voix. Elle s'élevait, toujours plus haut, si haut que l'air s'était raréfié. Elle survola la muraille qui la séparait de l'hémicylindre nord, puis la mer cylindrique. La voix devenait plus distincte. C'était Richard. Son petit cœur d'oiseau battait follement. Il se dressait sur le rivage devant les gratte-ciel et il agitait les bras.
« Viens vers moi, Nicole !»
lui criait-il. Elle pouvait voir briller ses yeux en dépit de la pénombre. Elle descendit se poser sur son épaule. Et tout redevint obscur. Elle se retrouvait dans sa cellule. N'entendait-elle pas un oiseau s'éloigner à l'extérieur? Son rythme cardiaque était toujours très rapide. Elle traversa la pièce minuscule.
« Merci, Amadou »,
murmura-t-elle.
« Merci, Omé ».
Elle sourit.
« Mais peut-être devrais-je dire « Merci, mon Dieu ».
Nicole s'allongea sur son lit et le sommeil eut raison d'elle après seulement quelques secondes. Vous venez d'écouter « Les jardins de Rama » d'Arthur C. Clarke et Gentry Lee, traduit de l'américain par Jean-Pierre Pugy, lu par Pascal Casanova, une production d'Audible Studios.